Merci beaucoup au groupe, et en particulier à Sarah et Jean-Samuel Fauquet qui ont imaginé ce temps de louange, préparé ces chants. Il y a quelqu'un qui me fait un petit signe. C'est pour dire que les enfants peuvent descendre pour le culte de l'enfance. Voilà, alors s'il y a encore des enfants. Et puis, nous allons passer à ce temps de la parole. C'est notre pasteur, Claude Bécher, qui s'est préparé pour ce moment. Et j'aimerais prier pour que notre écoute soit illuminée. Prions. Ta parole est la lumière de nos pas, la lampe de notre route. Et Seigneur, nous te remercions pour la parole prêchée ce matin. Nous te remercions pour notre pasteur qui a consacré du temps, la prière, des forces pour annoncer ta parole et donne-nous de l'accueillir et que cette semence puisse croître et porter du fruit dans nos vies, dans notre communauté, bien au-delà. Que ton nom soit béni. Amen.
Amen. Merci Valérie. Merci au groupe de louanges de nous recentrer sur le Dieu biblique, le Dieu de l'espérance. Du carburant pour l'espérance. Dans le journal de notre union d'église qui s'appelle Vivre, il y a un article qui dit « Les chrétiens font un peu semblant de croire. Au pire, ils se détachent d'églises incapables de les aider dans leurs interrogations profondes. » Et je me suis dit « C'est vrai, ça vaut la peine d'être un chrétien intègre, intégral, c'est-à-dire qui pense et qui vit en semaine ce qu'il pense dans son cœur. Pourquoi je crois, c'est une question importante. Que je crois, c'est important. Mais pourquoi je crois, ça m'aidera quand ça va mal et quand je serai tenté de faire autre chose. C'est pour ça que j'ai pensé, en tant que berger, que c'est peut-être la bonne époque de se poser la question de qu'est-ce qui est l'énergie de mon espérance. Il y a 2 jours, il n'y avait pas beaucoup de soleil. Est-ce que j'étais seul à avoir un peu de mal, à avoir plus d'espérance que la prochaine goutte qui me tombait devant le nez? Vous vous souvenez, il y a 2-3 jours? On avait pris l'habitude du soleil, mais fini la luminothérapie. Il fallait puiser au fond de soi, c'est pas vrai? Et alors, on a un peu plus de mal, non? Non? Vous êtes comme moi ou vraiment différent? Qu'est-ce qui influence notre existence? Alors, j'aime bien, c'est un cliché de Paris, il pleut. Il pleut pas toujours, c'est pas Londres. On affiche la crise dans le kiosque à journaux. Du coup, c'est un peu morose, n'est-ce pas? Dites, il ne faut pas beaucoup pour que ce soit morose. On est sensible. À quoi vous êtes sensible pour devenir occasionnellement inquiet ou désespéré? Qu'est-ce qui vous influence, vous? Pour que du coup, l'espérance en nous prenne un peu une claque. Je ne sais pas pour vous, mais vous n'êtes pas très bavard ce matin. Vous ne voulez pas m'aider?
Je suis encore dans le lit, peut-être.
On est encore dans le lit, peut-être. C'est ça, rêver à autre chose que là où on est. Hein. Mais aussi la maladie, non? Mais aussi la perspective de la mort, non? Mais aussi plus de goût à la vie parce qu'on se dit, quel sens ça a tout ça, non? Je suis seul, mais aussi les problèmes écologiques. Non ? Et demain, et l'anxiété, et le catastrophisme ambiant, et aussi l'inquiétude par rapport, pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite, au travail. Mais encore, vous voulez que j'en ajoute ? Je pourrais encore, hein ? Je peux déballer, hein ? Moi, je suis influencé par ça, vous pas ? L'inquiétude des enfants, l'inquiétude de l'insécurité. Non, mesdames, messieurs, l'inquiétude aussi des relations qui sont plus belles. Ça m'affecte, non ? On est affecté à l'intérieur de nous, c'est nous. Et on se retrouve comme ce monsieur qui dit « Et vous ? Comment ça ne va pas ce matin ?» Ben, ça va. C'est difficile à répondre à la question « Ça va ?» Ça va ce matin ? Il y a des questions qu'il est important de pouvoir poser. Quel facteur extérieur, c'est-à-dire vous n'en pouvez rien, c'est des facteurs extérieurs. Et quels facteurs intérieurs ? On n'est pas égaux. Psychiquement, on n'est pas égaux. Il y a des gens, ils naissent dans des familles où on voit tout ce qui ne va pas, pour l'éternité. Et il y a des autres qui sont aussi malades, mais c'est l'inverse. Ils ne voient plus ce qui ne va pas. C'est une maladie aussi, hein ? Quels facteurs extérieurs et intérieurs influencent le découragement, la morosité, le manque d'espérance ? L'espérance, c'est une attente. Elle est un moteur intérieur à chacun d'entre nous, quel que soit l'âge. L'espérance. Il n'y a pas un homme, pas une femme vivant aujourd'hui qui n'a pas un mobile de vivre, si tenu soit-il. C'est l'attente de quelque chose. De quoi ? Soit tu projettes devant ce que toi, tu as envie, dans ce cas-là, dans quel cas, tu programmes ta désespérance. Soit ça t'est promis par quelqu'un qui tient ce qu'il dit et ton espérance prend du muscle. Qu'est-ce qui me donne à moi le goût de la vie dans un contexte difficile ? Pas le goût de la vie dans un contexte facile. L'automne, c'est pas facile pour bien des gens. Sur quoi s'appuie l'espérance dans l'Évangile ? Alors, je voudrais ce matin que nous puissions sortir nos panneaux solaires, parce que le carburant pour l'espérance, c'est comme si nous avions en nous-mêmes le carburant qui nous aide. Hein ? Je préfère les panneaux solaires. Parce que ça, l'énergie ne vient pas de soi. Elle vient de quelque part. Sortir nos panneaux solaires, voici l'église de Villars aujourd'hui. C'est nous. Où puiser de l'espérance ? Où puiser la luminothérapie nécessaire pour les temps moroses ? On s'est mis à consommer. Regardez le 11 septembre. Tout d'un coup, tout le monde a compris que les relations sont importantes. On a parlé de nouveau aux voisins, à tous les gens. Après le 11 septembre, vous vous souvenez, certains qui étaient encore là, les historiques, là ? Ça fait quand même quelque temps, hein ? Tout le monde s'est dit, l'important, c'est la relation. Et puis c'était beau. Mais tout d'un coup, la relation s'est mise à être transformée en consommation sans fin. On s'est noyé dans la consommation après le 11 septembre, pas tout de suite, 3 mois après à peu près. Parce qu'on voulait oublier, on s'est mis à consommer sans fin. C'est typique de nous. Dis-moi, qu'est-ce qui te remplit ? C'est ça la question de l'espérance. Enfin, c'est exprès flou, hein, mais vous voyez ce que c'est ? C'est des rayons d'un magasin, plus que nécessaire. On s'est mis à consommer, à la recherche du bonheur dans les choses. Est-ce que c'est les choses qui vont nous suivre ? Et alors, certains ont dit, non, non, je vais oublier autrement qu'en consommant. Je vais m'assommer. Il y a différentes manières de s'assommer. Il y a la vôtre et il y a celle-là. Il y a des gens, ils s'assomment dans le travail. Le travail fut sa vie et la retraite sa mort. Si ? Si ? Je n'ai rien contre le travail, ça, c'est une bénédiction de Dieu. Il y a une dimension plus pénible depuis la chute, mais c'est une bénédiction de Dieu, la créativité. Mais il y a des gens, ils s'assomment là-dedans. Ou la course au perchoir, ou la drogue, de quelque nom que vous nommiez la drogue. Il y en a 36. Avec quoi tu t'assommes pour oublier ce qui est le moteur de ta vie? C'est une question importante pour l'Église. Elle est primordiale. Si vous êtes là, c'est que vous voulez recentrer sur autre chose que les nombreuses sirènes qui veulent nous assommer. Le monde virtuel. Je connais des gens, ils sont dans le monde virtuel. C'est leur assommoir. J'ai rien contre ce virtuel. Mais quand le virtuel remplace le réel, on est à côté du plan de Dieu. Les loisirs, c'est pareil. Consommer du loisir, surtout plus être seul avec mes fantômes. J'aimerais lire un texte avec vous qui était assez extraordinaire. Je le lis dans cette traduction que j'ai là devant moi. Alors, si vous ne me voyez pas avec une Bible devant moi, sachez que la Bible est là-dedans. Hein. Je le dis pour ceux qui seraient choqués que je n'ai pas une Bible devant moi. Voici ce que dit Paul à des chrétiens qui se trouvent à Corinthe. Là, il y a 2 semaines, nous avions vu les dons. Je ne sais pas, Éric Cazès avait parlé des charismas. Tout de suite après, l'apôtre Paul, qui fait bien le recentrage des choses, il dit « Dieu fait la récup, c'est avec des dons, mais une condition, c'est que ça édifie. Si tu as les dons, que ça édifie pas, arrête, ça vaut rien. » Grosso modo, il dit ça, « L'amour n'aura pas de fin. » Si vous retenez que ça, vous avez tout retenu. Ça, vous l'apporterez avec vous. Parce que Dieu est amour, et parce qu'on est fait pour ça. Et parce que nous avons multiples occasions de le manifester concrètement. L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront. Les langues inconnues prendront fin. Ben oui, il n'y aura plus besoin de traduire. Et la connaissance particulière cessera. Ça nous rend humbles, c'est très bien. Tous les docteurs, là, ça nous rend humbles. On connaît en partie. Notre connaissance est partielle. Et partielles sont nos prophéties. Ça nous rend tous humbles. Mais le jour où la perfection apparaîtra, vous avez vu ce drôle de langage de Paul? Qu'est-ce qu'il attend? La perfection. Ah, bah, on n'a pas l'habitude, hein? On a l'habitude du ciel, du paradis, et d'autres. Le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est parcelle cessera. Tiens, il y a comme une attente. C'est quoi l'espérance? L'attente de quelque chose. Qu'est-ce que tu attends? Ici, définition, la perfection. Autrement dit, ce qui est parcelle cessera. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais, je raisonnais comme un enfant. Une fois devenu homme, je me suis défait de ce qui est propre à l'enfant. Nous réfléchissons la théologie en ouvrant la Bible, même avec la révélation, mais comme des enfants. Qui d'entre vous était au ciel et dans l'au-delà pour nous dire comment c'est? Personne. Celui qui l'a fait, c'est le Christ, il nous en a dit assez. Mais il nous a dit en forme d'image. Ça nous rend bien humbles, les théologiens, c'est très bien. C'est à notre place. Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que d'une manière indirecte, le mot grec « énigma ». Nous voyons que d'une manière indirecte. Comme dans un miroir, à l'époque, il n'y avait pas le fil d'argent avec la vitre, il y avait du métal poli. Alors, je ne vous dis pas, hein, pour rectifier la ligne. Comme dans un miroir, alors... Tiens, il y a un maintenant et alors. Alors, c'est l'attente. Alors, nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle. Mais alors, je connaîtrai comme Dieu me connaît. En somme, 3 choses demeurent. La confiance, la foi, c'est la même chose. L'espérance. Et l'amour qui se donne. L'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. La confiance, un jour, va disparaître. L'espérance va être passée, puisqu'on vivra la réalité. Mais une chose demeure, c'est l'amour. Jusqu'à là, la lecture de ce magnifique passage que vous connaissez, on le lit pas, on lit les choses précédentes ou après dans les mariages, mais ça, pas souvent. Je résume, la prophétie... Un jour, elle sera accomplie. Les langues, plus de nécessité. L'imparfait sera rendu parfait. La connaissance imparfaite de Dieu et de soi-même sera totale. Nous verrons face à face. l'immature, le juvénile, l'enfant. Nous, moi, sera en pleine maturité. L'obscur, le déformé, sera en pleine lumière. L'incomplet sera rendu complet, achevé. Mais une chose est sûre, l'amour. Lui dure toujours et n'est pas limité dans le temps. Jusqu'à là, un enseignement important pour nous. Qu'est-ce qui motive notre espérance? Je ne sais pas si votre rythme cardiaque ressemble à ça. Le jour où il ressemble à ça, vous me le direz. L'espérance oriente notre vie. Je crois aussi parce qu'aujourd'hui, des vieillards dont, pardon pour le mot vieillard, des aînés dans le Seigneur, des vieux disciples, sont pour moi des exemples parmi vous. Je crois aussi parmi vous parce que des jeunes sont pour moi des exemples parmi vous. Parce que je vois le Saint-Esprit commencer à opérer ce qui un jour sera complet. C'est une des raisons pour laquelle on peut croire et qui motive mon espérance. Maintenant, j'aimerais vous rendre attentif à une chose. L'espérance, elle n'est pas juste ou elle n'est pas. C'est comme la foi. La foi est une réponse. Vous ne pouvez pas dire « j'ai la foi, t'en peux rien ». Si tu as la foi, c'est que tu as entendu une proposition et tu as dit « oui, là-dessus, je mise, je crois ». Vous saisissez ? L'espérance, c'est pareil. Il y a des gens, ils sont juste optimistes, mais ce n'est pas l'espérance. Quand la réalité vous rattrape, la réalité d'un monde dans ses contingences, comme nous l'avons dit, écologique, et le péché, et la maladie, et l'injustice, quand la réalité vous rattrape, c'est plus une question d'optimisme et de pessimisme. C'est une histoire d'espérance fondée ou d'espérance pas fondée. Regardez Abraham. Abraham, il est appelé le père de la confiance, le père de la foi. Il est le père d'une multitude de bénédictions aujourd'hui jusqu'à chez les Helvètes que nous sommes. Abraham n'a pas hésité à croire, autrement dit, à prendre Dieu au mot. Qu'est-ce que Dieu a dit ? Je te bénirai. Va-t'en de ton pays, je te donnerai une terre habitable. Autrement dit, une création guérie. Abraham a cru la promesse de ce Dieu-là. Il était complètement persuadé de que ce qu'il a promis, Dieu était capable de l'accomplir. C'est ça l'espérance. Aujourd'hui, nous avons des raisons de croire parce que nous voyons par le passé des choses. Mais nous avons aussi des raisons de croire parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont enviables. Et nous avons alors, de ce fait, des raisons de croire parce que celui qui me dit ce qui viendra, il est fiable. Il est digne de foi. Abraham, il a cru parce qu'il était persuadé que celui qui promet ces choses est capable de l'accomplir. Il se tient derrière, il ne ment pas. Il n'est pas seulement bon, mais il tient parole. Ça, ça peut nous aider à vivre ce que nous avons chanté tout à l'heure. Béni soit ton nom. Quand ? Dans la nuit, etc. Ça, ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Parce que tenir et dire « béni soit ton nom dans la nuit », il faut être un croyant pour le dire et le chanter. Un croyant en quoi ? Que Dieu ne trompe pas, qu'il est bon et qu'il tient parole. Ses promesses étaient aussi sûres que sa personne. Pourquoi il est sûr ? Pas seulement parce que c'est écrit, mais aussi parce qu'il est qui il est. Il est bon. Il est avant tout, dans sa carte de visite, il est amour. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, car il est fidèle celui qui a promis. Il se tient derrière ce qu'il dit. Il ne te lâche pas. C'est pour ça qu'on peut espérer contre toute espérance humaine. Espérer contre toute logique d'espérance humaine. Le Christ, s'il n'avait pas fondé sa vie là-dessus, il n'aurait pas accepté de donner sa vie. Mais c'est parce qu'il savait que aimer allait jusqu'à là et que le Christ le ressusciterait d'entre les morts, qu'il a donné sa vie. Unique personnage. Fondamentalement, Dieu, dans sa grâce, est, allez, je reprends quelque chose qui se trouve dans l'Écriture, qu'on oublie souvent, pour ceux qui le cherchent, ils ne le cherchent pas en vain. Pour ceux qui le cherchent, ils ne le cherchent pas en vain. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Qui est ton Dieu ? Pourquoi tu crois ? Pourquoi tu as de l'espérance ? Parce que Dieu. Pas parce que l'Église, pas parce que ma famille, pas parce que mon catéchisme, mais parce que mon Dieu, il est ce Dieu. Alors, si je résume, pourquoi j'espère ? J'ai des raisons. D'abord, nous l'avons dit, parce que ce Dieu fait des promesses à Abraham, et nous en bénéficions. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je te bénirai. Je te donnerai même un fils par ta descendance. Et même quand il y avait le sacrifice du fils, Dieu savait, Abraham savait qu'il pouvait ressusciter les morts. Dieu a dit, arrête, fais pas comme les autres cultures autour de toi. Je n'ai pas besoin que tu me sacrifies ton fils premier-né. Tu es un fils premier-né, toi ? Tu es le premier fils garçon ? Oui, tu vois. La deuxième, parce que quand vous regardez dans la Bible, on a cette chance, la Bible, ce n'est pas juste un livre d'un moment. Il y a eu des promesses. Quand il était en Assyrie ou en Babylonie, le reste du peuple juif, à cause de sa désobéissance, le Seigneur lui a dit, je te ferai revenir dans mon pays. Et effectivement, Israël était revenu dans sa terre, dans son pays. Et nous le savons. Plusieurs centaines d'années avant Jésus, Israël est revenu dans son pays. Il y a des promesses qui sont déjà réalisées à l'intérieur. Quand Dieu dit, j'ai la vérification historique que ça s'est réalisé. Dieu réveille tout d'un coup le cœur d'un potentat Cyrus qui devient même le libérateur du peuple de Dieu, qui lui permet de revenir dans sa terre. À l'intérieur de l'histoire, je peux vérifier que Dieu est fidèle. La méga histoire, mais aussi l'histoire familiale. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs générations de croyants, on voit combien c'est bon d'être attaché au Seigneur de la vie. Beaucoup ont été réalisés aussi de ces promesses avec la venue de Jésus le Messie. Depuis que Jésus le Messie est venu, une nouvelle ère a commencé et son esprit fait partie aussi de la réalisation des prophéties. Ça, c'est quand on met le rétroviseur. Pourquoi je crois ? Parce que j'ai un rétroviseur. Vous comprenez ? Pas seulement parce que je regarde en avant, mais parce que je vérifie qu'il est fiable. Je crois. C'est la raison pour laquelle la deuxième chose que je peux dire, c'est que quelque chose du monde à venir s'est passé dans ce Jésus le Messie. Pas dans César le Seigneur, dans Jésus le Seigneur. Vous avez là une peinture, vous avez Thomas. Vous savez Thomas qui lui met, on n'est pas sûr qu'il l'a mis autant au fond que ce qu'il a dans la peinture. Thomas, problème d'espérance. Touche Thomas. La lance, c'est le coup de lance fatal, pour être sûr, vous savez, pour être sûr qu'il est mort. Un gage. La résurrection de Jésus est pour nous le seul gage viable, palpable de ce que cet au-delà de résurrection signifie pour nous qui espérons. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est le prototype d'une création guérie. Il est le premier de ce que sera un jour un univers transformé. Ça, c'est l'Évangile qui nous le dit. C'est mon espérance. À cause de Jésus que je reste chrétien. Au troisième jour, il est ressuscité, nous dit le credo, deuxième, troisième siècle après Jésus. Le credo, le symbole des apôtres. Je crois à Jésus-Christ. Au troisième jour, il est ressuscité. Je crois au Saint-Esprit qui applique la vie nouvelle, à la résurrection de la chair. C'est drôle ce truc, hein ? Je crois en la résurrection de la chair. Il y en a qui ont retenu que l'idée du ciel et d'une éternité de l'âme. Mais c'est véritablement dans le concret que nous avons le droit d'espérer pour cette création, mais aussi pour nos corps. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Alors j'aimerais vous lire un autre passage. Cette fois-ci, on saute dans la première épître de Jean, ce n'est pas l'évangile. Et dans la première épître de Jean, il y a quelque chose qui nous rend humbles, comme dans 1 Corinthiens 13, nous l'avons lu tout à l'heure. Regardez, le texte est très intéressant. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don. Que nous soyons appelés enfants de Dieu. Vous vous souvenez du témoignage du baptême d'il y a 15 jours ? Je suis un enfant de Dieu. Ouais. Que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, il n'a pas découvert Dieu. Mais bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons, vous savez-vous ce que vous serez ? Ça fait partie de l'espérance. 1 Jean nous dit, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, il, c'est Jésus, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et maintenant arrive cette invitation qui peut effrayer, mais qui est tellement juste, vivre au diapason de ce qui vient. Et celui qui fonde sur lui une telle espérance, se rend pur comme il est pur. Alors pur, c'est pas impeccable. Pur, c'est simplement orienté comme Jésus l'a été. Avec son enseignement, avec sa manière de se situer devant les frères et les sœurs, mais aussi devant l'étranger, mais aussi devant celui qui se croit religieux et qui condamne les autres, mais aussi dans sa manière de protester, mais aussi dans sa manière de rester pour aimer. Que celui qui a cette espérance se rend comme Jésus. Pourquoi ? Parce que nous serons comme Jésus. Autrement dit, c'est notre invitation de vie chrétienne de vivre aujourd'hui au diapason de ce qui vient. Nous serons semblables à lui. C'est pour moi aussi énormément de consolation et de réjouissance intérieure. On peut dire la chose suivante, pour moi je me réjouis aussi parce que nous serons semblables à lui dans une nouvelle création où la justice habite. Vous languissez après ceci ? Vous souffrez assez de l'injustice pour avoir encore envie d'autre chose ? C'est ça la question de l'espérance. Je me réjouis que nous serons comme lui parce que l'injustice sera jugée, la maladie sera guérie, la mort sera anéantie, l'égoïsme sera écarté, la convoitise sera abolie, la rébellion à la volonté de Dieu, de la volonté sera loin. Aimer comme il a aimé. La dureté du cœur sera loin. Nous serons semblables à lui. La divagation de notre affection sera aussi rangée dans le sens du bien. La culpabilité sera derrière. L'aveuglement sera éradiqué. Toutes les facultés seront rendues parfaites et saintes. Voici pourquoi je crois, ce que je crois. J'aimerais continuer sur ce troisième point. Nous avons vu quoi ? Parce que Dieu promet et lui, il se tient derrière. Deuxièmement, parce que Jésus est venu comme un gage de notre espérance. D'accord ? Et le troisième, parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. On devrait avoir des journaux qui disent aussi tout ce qui est beau et bien, dans le sens de la paix, dans le sens de la justice aujourd'hui. Mais on est mordu par un pessimisme terrible. Mais ouvrez aussi les yeux sur ce que fait le Saint-Esprit. À la petite échelle, à la grande échelle, j'ai vu des vieillards mourir dans l'espérance et la joie de ce qui vient. J'ai vu des jeunes dire « Je sais qu'il peut y avoir de beaux amusements partout, mais je choisis de faire un déplacement et d'aller visiter cette personne qui est dans le besoin. Je choisis d'aller aimer celui que les autres du groupe n'aiment pas. Je vois des choses qui sont de l'ordre de l'espérance, qui sont très belles à vivre. » Je vois des gens surmonter le racisme. Je vois des gens devenir généreux alors qu'ils étaient avant avides de confort et de sécurité financière. Beaucoup ont trouvé des prolongements au cours des siècles. Je me souviens aussi avoir vu ceci. C'était un homme qui était mis à mort pour sa foi et quand on les brûlait. Et il était là avec ses chaussures. Et puis, la foule était là parce que dans le temps, ça se passait en public, c'était aux Pays-Bas. Et à un moment donné, il dit « Arrêtez, arrêtez, mettez pas le feu tout de suite. J'ai des chaussures ici, je vois quelqu'un qui est pieds nus. Donnez-lui mes chaussures. » Ça, c'est le genre de folie que l'espérance peut se faire parce que la mort n'est pas un point final, mais parce que l'amour n'a pas de fin. Pour les promesses encore à venir, celle pour laquelle le Seigneur se tient aussi derrière ce qu'il dit, que vous l'appeliez la vie éternelle, qui est juste un équivalent de royaume de Dieu, c'est juste un équivalent dans la Bible. Ou alors la rédemption pour notre corps, Romains chapitre 8. Nous aussi, nous soupirons après la rédemption pour notre corps. Vous avez ça dans vos Bibles? Ce qui est promis, une nouvelle terre et de nouveaux cieux où la justice habite, dès à présent, nous pouvons poser les signes de ce qui est à venir. Et probablement, on dira alors, je ne savais pas que ce serait comme cela. Oui, parce que nous connaissions partiellement. Ce qui est, c'est déjà beau, et quand ce sera parfait, ce sera encore plus beau. Je vous raconte une histoire. Laurel savait qu'elle était mourante. Pendant des semaines, nous avons parlé fréquemment du ciel avec elle. À quoi il ressemblerait? Et ce, que serait la vie là-haut? Nous pleurions constamment et nos entretiens se terminaient toujours par des douces étreintes d'espoir. Dans la foi, s'imaginer quelque chose que l'on n'a pas vu, quelque chose que l'on ne connaît que de manière déformée, la partie la plus difficile. Puis, tout d'un coup, je me suis souvenu d'une autre histoire. Une jeune fille aux cheveux blonds et aux yeux d'un bleu profond était aveugle depuis sa naissance. Lorsqu'elle eut atteint 12 ans, les médecins purent enfin, à cause des nouvelles découvertes, pratiquer une nouvelle technique de chirurgie, et si elle réussissait, cela pouvait lui donner le merveilleux cadeau de la vue. Le résultat ne serait pas connu avant plusieurs jours. Après l'enlèvement des bandages, ses yeux devaient être protégés contre la lumière. Alors, elle demeura assise dans le noir et elle attendit. Pendant de longues heures, sa mère tenta de décrire ce qu'elle verrait après. En réponse aux questions de sa fille, est-ce qu'elle verrait donc bientôt? Elles étaient toutes deux si excitées, anticipant un heureux dénouement, que ni l'une ni l'autre ne dormirent beaucoup. À maintes reprises, même dans le noir, elles imaginèrent une foule de belles choses, couleurs, formes, merveilles de toutes sortes. Finalement, le moment vint où les yeux de la jeune fille purent supporter suffisamment de lumière pour qu'elle puisse regarder par la fenêtre pour la première fois de sa vie. Elle demeura immobile et silencieuse. Pendant un long moment à l'extérieur, le printemps offrait une de ces belles journées. Ça pourrait être l'automne, hein, il y a aussi des belles journées. Ensoleillée et chaude, avec quelques flocons blancs dans le ciel tout bleu, le vent qui berçait doucement le cerisier saupoudrait le sol d'une neige rose qui se détachait des fleurs dentelées. Des crocus jaunes garnissaient fièrement le trottoir de briques qui serpentait à travers le gazon. Lorsque la jeune fille se tourna vers sa mère, des larmes ruisselant sur ses joues, « Maman, pourquoi tu m'as pas dit que ce serait si beau ?» Alors, je partageais cette histoire avec mon amie. Pour elle aussi, l'émotion la gagna. Laurel, en ce moment, nous sommes assises dans le noir, comme cet aveugle. Mais sous peu, toi, à Dieu, tu poseras la même question. Pourquoi tu ne m'as pas dit que ce serait si beau? La foi, c'est un oiseau qui perçoit la lumière et qui chante alors que l'aube n'est pas encore levée. Je conclus, notre espérance repose sur les promesses de Dieu. Ce Dieu-là, il est bon, il est fiable. Deuxièmement, sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour ça que l'espérance, c'est celui qui a les yeux fixés sur Jésus. Le prototype d'une création nouvelle, le Sauveur et le Seigneur. Les regards fixés sur Jésus, celui qui mène la foi à son accomplissement. Je me réjouis de l'accomplissement. Les Français ont un beau mot qui est très difficilement traduisable en anglais. Je me réjouis du dénouement. Il y a des gens, ils ont tellement peur que la Bible dise que c'est la fin des haricots, qu'ils craignent toute chose qui vient. Ce n'est pas la fin des haricots. Et moi, j'aimerais vous dire, comme cet aveugle pouvait dire, j'aimerais vous dire, ce que la promesse contient est très beau et digne du fait que nous ajustions notre vie dessus. L'amour sur l'action de l'Esprit Saint qui aujourd'hui encore est à l'œuvre. Je vous en ai parlé courtement. L'amour est éternel. Il s'agit dès lors d'aimer sa venue et de ne pas se tromper d'espérance. Mettez pas votre espérance dans ce qui va vous tromper. Ma décision de suivre Jésus signifie, et ça m'aide dans mon ministère, dans ma vie, avant que je sois pasteur. Et ce n'est pas parce que je suis pasteur que je crois. C'est l'inverse. Je ne renoncerai jamais à l'espérance à cause de Jésus. Au milieu des difficultés personnelles, communautaires, ou internationales, ou physiques, ou psychiques, je suis attentif aux signes de vie et d'espérance, car il vient. Et ce qui est incomplet sera rendu parfait. Je termine avec cette prière qui se trouve à la fin de l'Épître aux Romains. Elle est juste magnifique. Écoutez, ne vous laissez pas bercer par le ronronnement des mots pieux. Écoutez ça. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, je vous ai expliqué pourquoi, vous comble de toute joie, c'est la joie d'anticipation, et de la paix d'anticipation. Par votre confiance en lui, Jésus-Christ, qu'il vous comble, c'est beaucoup, hein ? C'est plus que ce que vous avez, hein ? Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance de celui qui est toujours dans le coup quand il y a une création, le Saint-Esprit. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour son cœur. Amen.